Chapitre 2. Marchands et traîtres. Ce fut un bruit de pas léger qui l'alerta. Accroupi dans le potager, Ronica se figea. Le bruit provenait de l'allée carrossable. Elle prit son panier de navet et fila se réfugier sous la tonnelle de vigne. Les muscles de son dos se nouèrent, protestant contre le mouvement brusque, mais elle n'y prêta pas attention. Elle tenait plus à la vie qu'à son dos. Elle déposa doucement le panier à ses pieds. En retenant son souffle, elle scruta à travers les grandes feuilles de vigne. De son abri, elle aperçut un jeune homme qui se dirigeait vers la porte d'entrée. Une mante à capuchon le dissimulait et ses manières furtives trahissaient ses intentions. Il gravit les marches jonchées de feuilles. À l'entrée, il hésita, faisant crisser ses bottes sur les éclats de verre tandis qu'il regardait la maison obscure. Il entrebâilla la grande porte qui grinça et se coula à l'intérieur. Ronica respira profondément et réfléchit. Ce n'était probablement qu'un maraudeur, venu pour voir s'il trouvait encore quelque chose à piller. Il n'allait pas tarder à constater que ce n'était pas le cas. Tout ce que les Chalcédiens n'avaient pas emporté, les voisins s'étaient chargés de le rafler. Qu'il rôde donc dans la maison dévastée, il s'en irait bientôt. Il ne restait rien qui vaille qu'elle risque sa vie. Si elle le surprenait, il pouvait l'attaquer. Elle voulut se persuader qu'elle n'avait rien à y gagner. Pourtant, elle se surprit à serrer le gourdin qui ne la quittait plus désormais alors qu'elle s'avançait tout doucement vers la porte. À pas de loup, elle gravit les marches jonchées de débris et d'éclats de verre. Elle passa une tête par le battant, mais l'intrus était hors de vue. Sans bruit, elle se glissa dans le vestibule. Elle s'immobilisa, l'oreille aux aguets. Elle entendit une porte s'ouvrir quelque part au fond de la maison. Le gredin paraissait savoir où il allait. Alors c'était donc quelqu'un qu'elle connaissait. Si oui, quelles étaient ses intentions? Il était peu probable qu'elle soit honnête. Elle ne se fiait plus qu'aux vieux amis ni aux alliés. Elle ne voyait pas qui pouvait compter la trouver chez elle. Elle avait fui Terrilleville des semaines auparavant, le lendemain du bal d'été. La veille, la tension provoquée par la présence des mercenaires chalcédiens dans le port avait été portée à son comble. Des rumeurs avaient circulé au sujet d'une descente des chalcédiens alors que les premiers marchands étaient occupés à leur fête. C'était un complot tramé par les nouveaux marchands qui avaient imaginé de prendre le gouverneur en otage et d'envahir Terrilleville. Ainsi du moins le disait la rumeur. Ce fut suffisant pour allumer l'incendie et l'émeute. Les premiers et les nouveaux marchands s'étaient affrontés puis s'étaient retournés contre les mercenaires. Les navires avaient été attaqués et brûlés, le quai des taxes, symbole de l'autorité du gouverneur, avait de nouveau flambé. Mais, cette fois-ci, l'incendie s'était propagé dans toute la ville en ébullition. Les nouveaux marchands, furieux, avaient mis le feu aux boutiques luxueuses de la rue du désert des pluies. On s'était vengé d'eux en réduisant leurs entrepôts en cendres, puis une main inconnue avait enflammé la salle du conseil. Pendant ce temps, le combat faisait rage dans le port. Les galères chalcédiennes, maquillées en vaisseaux de patrouille jaméliens, constituaient une branche de la tenaille. Les navires chalcédiens qui avaient amené le gouverneur formaient l'autre. Pris entre les deux, les vives nefs, les navires marchands et les bateaux de pêche des immigrants de trois navires. Enfin, le ralliement des petites embarcations des gens de trois navires avait changé le cours de la bataille. Dans l'obscurité, les barques de pêche avaient pu se faufiler jusqu'au vaisseau chalcédien. Des pots d'huile bouillante et de goudron s'étaient fracassés contre les coques ou avaient été lancés sur les ponts. Brusquement, les chalcédiens furent à leur tour trop occupés à éteindre le feu pour retenir les navires. Comme des taons harcelant des taureaux, les petits canots avaient continué d'attaquer les bâtiments qui bloquaient l'entrée du port. Les combattants chalcédiens sur les quais et à Terrilleville furent horrifiés de voir leur propre vaisseau chassé du port. Les envahisseurs isolés se retrouvèrent inopinément à se battre pour défendre leur vie. Le combat s'était poursuivi en mer avec les navires de Terrilleville pourchassant les chalcédiens au large. Au matin, après que les clameurs des émeutes se furent éteintes, la fumée portée par la brise estivale flottait en volute dans les rues. Les marchands reprirent bientôt le contrôle de leur port. Profitant de l'accalmie, Ronica avait pressé sa fille et ses petits-enfants de fuir pour se réfugier au désert des pluies. Kefria, Seldon et Malta, grièvement blessés, avaient réussi à s'échapper sur une vive nef. Ronica elle-même était restée sur place. Elle avait plusieurs affaires personnelles à régler avant de se trouver un asile. Elle avait serré les papiers de famille dans la cachette qu'Efron Vestrit avait ménagée autrefois. Puis, en compagnie de Rack, elle avait rassemblé vêtements et provisions de bouche et s'était mise en route pour gagner la ferme des Âtres. Cette propriété des Vestrit, éloignée de Terrilville, était assez modeste pour leur offrir la sécurité. Ce même jour, Ronica avait fait un bref détour afin de retourner à l'endroit où la voiture de Davad Restart était tombée dans une embuscade. Abandonnant la route, elle avait descendu péniblement le talus boisé jusqu'au corps de Davad. Elle l'avait recouvert d'un drap, car elle n'avait pas la force d'emporter sa dépouille pour l'enterrer. Et il s'était brouillé avec les membres éloignés de sa famille, et il n'était pas question de demander à Rack de l'aider. Elle n'avait que cet ultime hommage, tout pitoyable qu'il soit, à offrir à un homme qui avait été à la fois un ami fidèle durant presque toute sa vie et un dangereux poids mort au cours de ses dernières années. Elle chercha en elle quelques mots à prononcer sur son corps, mais se contenta finalement de secouer la tête.
« Vous n'étiez pas un traître, Davad, je le sais. Vous étiez cupide, et votre cupidité faussait votre jugement, mais je ne croirais jamais que vous ayez délibérément trahi Terrilville. »
Puis elle avait gravi péniblement le talus jusqu'à la route pour rejoindre Rack. La servante ne dit mot sur l'homme qui avait fait d'elle une esclave. Si elle éprouvait quelque satisfaction de sa mort, elle n'en fit pas état. Ronica lui en sut gré. Les galères et les navires chalcédiens ne revinrent pas immédiatement au port de Terrilville. Ronica avait espéré que la paix s'installerait. Au contraire, une lutte bien plus terrible s'engagea entre les premiers et les nouveaux marchands, voisins contre voisins, et ceux qui n'étaient d'aucun bord s'en prenaient à tous ceux que la guerre civile avait affaiblis. Des incendies se déclaraient partout. Au cours de leur fuite, Ronica et Rack passèrent devant des maisons en flammes et des chariots renversés. Les réfugiés encombraient les routes. Premiers et nouveaux marchands, domestiques et esclaves fugitifs, négociants et mendiants, pêcheurs de trois navires, tous fuyaient l'étrange guerre qui avait si soudainement éclaté parmi eux. Ceux-là même qui quittaient la ville continuaient à s'affronter. Des groupes s'abreuvaient mutuellement de sarcasmes et d'injures. La méfiance avait fait voler en éclats l'allègre diversité de la cité ensoleillée près du port aux eaux bleues. Durant leur première nuit sur la route, Rack et Ronica avaient été dévalisés. On leur avait dérobé leurs sacs de provisions pendant qu'elles dormaient. Elles poursuivirent leur chemin en croyant être assez résistantes pour atteindre la ferme, le ventre creux. Des gens racontaient que les Chalcédiens étaient de retour et que Terrilville tout entière était en flammes. Le deuxième jour, en début de soirée, plusieurs jeunes gens encapuchonnés les abordèrent en exigeant qu'elles leur remettent leurs objets de valeur. Quand Ronica répondit qu'elle n'avait rien, les bandits la molestèrent, fouillèrent son baluchon de vêtements avant de lancer avec mépris ses effets dans la poussière. Des réfugiés passèrent près d'eux en détournant les yeux. Personne n'intervint. Les brigands menacèrent Rack, mais l'esclave resta stoïque. Ils finirent par s'en aller en quête de proie plus avantageuse, un homme accompagné de deux domestiques poussant une charrette à bras lourdement chargée. Les deux serviteurs s'étaient enfuis devant les bandits, laissant l'homme supplier et crier, pendant que les voleurs pillaient son chargement. Rack avait tiré frénétiquement Ronica par le bras et l'avait entraînée.
« On ne peut rien faire, on doit sauver notre vie. »
Elle avait tort. Le jour suivant en apporta la preuve. Elles découvrirent les cadavres de la marchande de thé et de sa fille. Les fuyards contournaient les corps et s'éloignaient en toute hâte. Ronica en fut incapable. Elle s'arrêta pour scruter le visage convulsé de la femme. Elle ignorait son nom mais se rappelait son étal de thé au grand marché. Sa fille avait toujours servi Ronica avec le sourire. D'humbles conditions, elles étaient venues s'installer dans l'opulente cité et avaient participé à la diversité de Terrilville. Aujourd'hui, elles étaient mortes. Ce n'étaient pas les Chalcédiens qui avaient tué ces femmes. C'étaient les habitants de Terrilville eux-mêmes. C'est à ce moment-là que Ronica fit demi-tour et rebroussa chemin. Elle ne put expliquer sa décision à Rack. Elle l'encouragea même à continuer seule vers les âtres. Aujourd'hui encore, elle était incapable d'invoquer une raison logique à son revirement. Peut-être était-ce parce qu'elle avait déjà vécu le pire. Elle retrouva sa maison dévalisée et saccagée. Elle ne fut pas autrement bouleversée en découvrant l'inscription « Traître » sur le mur du cabinet de travail. Terrilville, telle qu'elle l'avait connue, avait disparu à jamais. Si tout devait périr, peut-être valait-il mieux en finir aussi. Pourtant, elle n'était pas femme à capituler aussi aisément. Dans les jours qui suivirent, Rack et elle s'installèrent dans la cabane du jardinier. Chose curieuse, elle menait une vie normale, dans une sorte de détachement. On continuait à se battre en ville. Depuis l'étage de la maison de maître, Ronica entrevoyait le port et la cité. Par deux fois, les Chalcédiens tentèrent de s'en emparer. Par deux fois, ils furent repoussés. Les vents nocturnes apportaient souvent le fracas des combats et l'odeur de fumée, mais rien de tout cela ne semblait plus la toucher. La minuscule cabane était facile à chauffer et à entretenir. Son humble aspect la rendait moins tentante aux yeux des rôdeurs et des pillards. Les derniers produits du potager, le verger abandonné et les poulets qui restaient, suffisaient à leurs modestes besoins. Elles écumaient la plage en quête de bois flotté qui brûlait dans leur petit âtre en dodant des flammes vertes et bleues. Ronica ne savait pas ce qu'elle ferait quand l'hiver viendrait. Elle périrait probablement. Mais pas de bonne grâce, ni de plein gré. Non, elle lutterait jusqu'au bout. C'était cette même obstination qui la conduisait à présent, sur la pointe des pieds, dans le couloir à la poursuite de l'intrus. Elle empoigna son gourdin à pleine main. Elle n'avait pas une idée bien précise de ce qu'elle ferait si elle se retrouvait face à lui. Elle voulait simplement savoir ce que cherchait ce rôdeur solitaire qui se déplaçait si furtivement dans la maison désertée. La demeure avait déjà pris l'odeur poussiéreuse de l'abandon. Les objets les plus précieux de la famille Vestrit avaient été vendus au début de l'été pour financer l'expédition de sauvetage de la vive nef piratée. Les trésors qui restaient possédaient une valeur plus sentimentale que vénale. Les babioles et curiosités, souvenirs des voyages d'Ephron, un vase ancien qui lui venait de sa mère, une tenture qu'elle avait choisie avec son mari quand ils étaient jeunes mariés. Ronica renonça à son inventaire. Tout avait disparu maintenant. Tout avait été cassé ou dérobé par des gens qui n'avaient aucune idée de ce que ces objets représentaient. Qu'il en soit ainsi. Elle conservait le passé dans son cœur. Elle n'avait pas besoin de choses matérielles qui l'y rattachent. Elle passa sur la pointe des pieds devant des portes arrachées de leurs gonds. En se hâtant après l'intrus au capuchon, elle accorda à peine un regard à la cour, jonchée de peaux renversées et de plantes roussies. Où allait-il? Elle entrevit un bout de sa cape alors qu'il pénétrait dans une pièce. La chambre de Malta? La chambre de sa petite fille? Ronica s'approcha à pas de loup. Il marmonnait tout seul. Elle risqua un rapide coup d'œil, puis entra hardiment dans la pièce en s'écriant
« Sir Wintrell, que faites-vous ici ?»
Avec un cri sauvage, le jeune homme bondit sur ses pieds. Il s'était agenouillé près du lit de Malta. Une rose rouge reposait sur l'oreiller. Blême, la main crispée sur sa poitrine, il dévisagea Ronica. Il remuait les lèvres sans qu'aucun son en sorte. Ses yeux allèrent jusqu'au gourdin qu'elle tenait et s'élargirent encore.
« Oh, asseyez-vous !»
s'exclama Ronica, exaspérée. Elle lança le gourdin au pied du lit et s'assit elle-même.
« Que faites-vous ici ? »
répéta-t-elle d'un ton las. Elle était certaine de connaître la réponse.
Vous êtes vivante ?
Dit doucement Serwin. Il porta les mains à son visage, se frotta les yeux. Ronica devina qu'il cherchait à cacher ses larmes.
Pourquoi n'avez-vous pas... Malta est-elle vivante aussi ? On a raconté que...
Serwin se laissa tomber sur le lit, près de la rose. Il posa délicatement la main sur l'oreiller.
J'ai appris que vous aviez quitté le bal avec Davad Restart. Tout le monde est au courant que sa voiture a été attaquée. Il n'en voulait qu'à Restart et au gouverneur. C'est ce qu'on raconte. Il vous aurait laissé tranquille si vous n'aviez pas été avec Restart. Je sais qu'il est mort. Certains prétendent savoir ce qu'est devenu le gouverneur, mais ils n'en disent pas plus. Chaque fois que j'ai posé des questions au sujet de Malta et de vous...
Sa voix se brisa soudain et il rougit, mais il se força à poursuivre.
On rapporte que vous êtes des traîtres, que vous étiez de mèche avec Restart, que vous aviez imaginé de livrer le gouverneur au nouveau marchand qui voulait l'assassiner. On aurait rejeté la responsabilité de sa mort sur les marchands de Terrilville, et Jamelia aurait dépêché des mercenaires chalcédiens pour s'emparer de notre ville et la livrer au nouveau marchand.
Il hésita, puis s'arma de courage et continua.
Certains disent que vous avez eu ce que vous méritiez. On colporte des bruits terribles et je vous croyais tous morts. Drac Ténira a pris votre défense. Il a affirmé que c'était des balivernes. Mais depuis qu'il est parti sur l'Ophélie pour participer au blocus à l'embouchure du fleuve des pluies, personne n'a élevé la voix en votre faveur. J'ai bien tenté une fois, mais je suis jeune. Personne ne m'écoute. Mon père se fâche si je parle de Malta. Candilo a pleuré son ami. Il l'a enfermée dans sa chambre et a menacé de lui donner le fouet si elle prononçait encore son nom. Et il n'a jamais fouetté Dilo. « De quoi a-t-il peur ?»
demanda Ronica brutalement.
« Que les gens vous cataloguent comme traite parce que vous vous souciez du sort de vos amis ?»
Serwin acquiesça d'un brusque hochement de tête.
« Père a été mécontent qu'Ephron prenne Brashen sous son aile après que notre famille l'a déshérité. Puis vous l'avez nommé capitaine du Parangon et vous l'avez envoyé en mer, comme si vous étiez convaincu qu'il était capable de sauver la Vivacia. Père a cru que vous vouliez nous en remontrer, nous prouver que vous pouviez remettre dans le droit chemin le fils qu'il avait chassé. « C'est parfaitement absurde !»
s'exclama Ronica, indignée.
« Je n'ai rien fait de tel. Brashen s'est remis tout seul dans le droit chemin, et votre père devrait être fier de lui au lieu d'en vouloir au Vestrit. Mais j'imagine qu'il est satisfait de nous voir stigmatisés comme traîtres. »
Serwin piqua du nez, honteux. Puis il releva la tête, et les yeux sombres qu'il posa sur elle ressemblaient fort à ceux de son frère aîné.
« Vous avez raison, malheureusement. Mais je vous en prie, ne me faites pas languir plus longtemps. Dites-moi, il n'est rien arrivé à Malta ? Se cache-t-elle ici avec vous ?»
Ronica réfléchit un long moment. Pouvait-elle se fier à lui ? Elle ne désirait nullement tourmenter ce garçon, mais elle ne mettrait pas sa famille en péril par égard pour ses sentiments.
La dernière fois que j'ai vu Malta, elle était blessée mais vivante, et ce n'est pas grâce aux hommes qui nous ont attaqués et qui l'ont laissée pour morte. Elle se cache avec sa mère et son frère en lieu sûr. Je ne vous en dirai pas davantage.
Elle n'avoua pas qu'elle n'en savait guère plus elle-même. Ils étaient partis avec Rain, l'amoureux du désert des pluies de Malta. Si tout s'était passé comme prévu, ils avaient bien rejoint le Kendry, ils étaient sortis du port et avaient remonté le fleuve des pluies. Si tout s'était bien passé, ils étaient à présent en sécurité à Troynous. L'ennui, c'était que, au train où allaient les choses ces derniers temps, et ils n'avaient aucun moyen de faire parvenir des nouvelles à Ronica. Il ne lui restait qu'à s'en remettre à ça et à sa miséricorde. Le soulagement se lut sur la physionomie de Serwin Trell. Il tendit la main vers la rose sur l'oreiller de Malta.
« Merci !»
murmura-t-il avec ferveur. Mais il gâcha tout en ajoutant
« Maintenant,
J'ai au moins un espoir à quoi me raccrocher. »
Ronica réprima une grimace. À l'évidence, Dilo n'était pas la seule à avoir hérité des dispositions mélodramatiques de la famille Trell. Elle changea résolument de sujet.
« Dites-moi ce qui se passe en ce moment à Terrilville. »
Il parut surpris par la question inattendue.
« Eh bien, c'est que je ne sais pas grand-chose. Père nous garde à proximité de la maison. Il croit que tout cela va se calmer d'une façon ou d'une autre et que Terrilville va reprendre sa vie d'avant. Il sera furieux s'il découvre que je me suis éclipsé. Mais il le fallait, vous comprenez ?»
Il porta la main à son cœur.
« Bien sûr, bien sûr. Qu'avez-vous vu en venant ici? Pourquoi votre père vous garde-t-il à proximité de la maison ?»
Le jeune homme fronça les sourcils et baissa les yeux sur ses mains soignées.
« Eh bien, à cette heure, nous tenons toujours le port. Mais ça peut changer à tout moment. Les gens de trois navires nous ont aidés, mais comme tous les bateaux sont dans la bataille, on ne pêche plus et le marché n'est plus approvisionné. Alors la nourriture commence à renchérir. » À cause aussi de la destruction de nombreux entrepôts. Il y a eu du pillage en ville. Des gens ont été rossés et volés pour avoir essayé de faire du commerce. Certains disent que les coupables sont des bandes de nouveaux marchands, d'autres que ce sont des esclaves marrons qui raflent tout ce qu'ils peuvent. Le marché est désert. Ceux qui osent ouvrir leurs boutiques risquent gros. Séry a fait saisir par la garde ce qui restait du quai des taxes. Elle voulait qu'on y garde les oiseaux messagers pour Jamelia. Mais la plupart ont péri brûlés ou asphyxiés. Les hommes qu'elle a postés là-bas ont bien intercepté récemment un oiseau, mais elle n'a pas voulu communiquer les nouvelles qu'il avait apportées. Certains quartiers sont tenus par les nouveaux marchands, d'autres par les premiers. Les gens de trois navires et autres groupes sont pris entre les deux. La nuit, il y a des bagarres. Mon père est furieux qu'il n'y ait aucune négociation. Selon lui, les vrais marchands savent que tout ou presque peut se résoudre par un marché équitable. D'après lui, c'est la preuve que les nouveaux marchands sont responsables de tout, mais eux, bien sûr, ils rejettent la faute sur nous. Ils disent qu'on a enlevé le gouverneur. Mon père croit que vous étiez prête à participer à son enlèvement afin qu'il soit assassiné et qu'on nous en tienne pour responsables. Maintenant, les premiers marchands se querellent entre eux. Certains veulent qu'on reconnaisse l'autorité de Séry comme porte-parole du gouverneur. D'autres disent qu'il est temps pour Terrilville de secouer le joug de Jamelia une fois pour toutes. Les nouveaux marchands prétendent que nous sommes toujours gouvernés par Jamelia, mais refusent de reconnaître les documents de Sérille. Ils ont rossé le messager qu'elle leur a dépêché avec le drapeau de trêve et le lui ont renvoyé, les mains liées derrière le dos, avec un parchemin attaché au cou. Dans ce message, ils l'accusent de trahison, d'avoir trempé dans le complot pour renverser le gouverneur. Ils déclarent que notre attaque contre lui et contre les bateaux de patrouille a provoqué les violences dans le port et le retournement de nos alliés chalcédiens.
Il s'humecta les lèvres et ajouta
« Ils menacent d'être sans pitié, quand le moment sera venu et que la force sera de leur côté. »
Serwin marqua une pause pour reprendre haleine. D'un air grave qui le fit paraître plus âgé, il poursuivit
« C'est la pagaille, et ça ne s'arrange pas. Certains de mes amis veulent prendre les armes et chasser les nouveaux marchands. Rode Cairn déclare qu'on devrait tuer ceux qui refusent de partir et leur reprendre tout ce qu'ils nous ont volé. Beaucoup de fils de marchands sont d'accord avec lui. Selon eux, Terrilville ne redeviendra elle-même que quand ils seront partis. Certains sont d'avis qu'on les rassemble et qu'on les somme de choisir entre le départ ou la mort. Le bruit court que Cairn et ses amis sortent beaucoup la nuit. »
Il secoua la tête d'un air malheureux.
« C'est pourquoi mon père cherche à me garder à la maison. Il ne veut pas que je sois mêlé à tout ça. »
Il croisa soudain le regard de Ronica.
« Je ne suis pas un lâche, mais je ne veux pas y être mêlé. » « Quant à cela, votre père et vous êtes avisés. On ne résoudra rien de cette façon. Cela ne servirait qu'à justifier leur violence. »
Elle soupira et demanda «
Quand aura lieu le prochain conseil des marchands ?»
Serwin haussa les épaules.
« Ils ne se sont pas réunis depuis le début des événements, du moins pas officiellement. Tous les propriétaires des Vives-Nefs sont partis à la poursuite des Chalcédiens.
Certains marchands ont fui la ville, d'autres se sont barricadés chez eux. Les chefs du conseil se sont réunis à plusieurs reprises avec Séri, mais elle les a convaincus de retarder la convocation de l'assemblée. Elle désire se réconcilier avec les nouveaux marchands et user de son autorité en qualité de représentant du gouverneur pour restaurer la paix. Elle veut aussi traiter avec les Chalcédiens. Ronica garda un instant le silence. Elle serrait les lèvres. Cette série paraissait s'attribuer un peu trop de pouvoir. Quelles étaient ces nouvelles qu'elle avait eues? Plus tôt le conseil se réunirait et élaborerait un plan d'attaque pour rétablir l'ordre, plus tôt la ville entamerait sa guérison, c'était certain. Pourquoi s'y opposerait-elle?
Serwin, dites-moi, si j'allais voir Séri, vous croyez qu'elle accepterait de me parler, ou bien me tuerait-on comme traître?
Le jeune homme la regarda avec consternation.
Je ne sais pas,
reconnut-il. J'ignore de quoi mes anciens amis sont capables aujourd'hui.
On a retrouvé le marchand d'Ève, pendu. Sa femme et ses enfants ont disparu. D'aucuns avancent qu'il s'est suicidé quand il s'est aperçu que son sort avait tourné. D'autres prétendent que ce sont ses beaux-frères qui l'ont assassiné, parce qu'ils avaient honte. Mais on n'en parle pas beaucoup.
Ronica observa un instant le silence. Elle pouvait se blottir ici, dans les ruines de sa maison, sachant que si elle était assassinée, on n'en parlerait pas beaucoup non plus. Ou bien, elle pouvait se trouver une autre cachette. Mais l'hiver approchait, et elle avait déjà décidé qu'elle ne mourrait pas de bonne grâce. Peut-être ne restait-il que l'affrontement. Du moins aurait-elle la satisfaction de dire ce qu'elle avait sur le cœur avant qu'on la tue.
« Pouvez-vous transmettre un message à Séri de ma part? Où loge-t-elle ? »
Elle s'est appropriée la maison de Davad Restart.
Mais je vous en prie, je n'ose pas transmettre un message. Si mon père le découvrait...
Bien sûr. Elle l'interrompit sèchement. Elle pourrait lui faire honte. Elle n'avait qu'à laisser entendre que Malta le prendrait pour un lâche. Mais elle n'utiliserait pas ce gamin pour tâter le terrain. À quoi bon sacrifier Serwin pour assurer sa propre sécurité? Elle irait elle-même. Voilà trop longtemps qu'elle restait chez elle à trembler. Elle se leva.
« Rentrez chez vous, Serwin, et restez-y. Écoutez votre père. »
Le jeune homme se leva à son tour, lentement. Il promena son regard sur elle, puis détourna les yeux, gêné.
« Est-ce que ça va pour vous, ici, toute seule? Avez-vous suffisamment de quoi vous nourrir ?»«
Je vais très bien, merci. » Elle se sentit curieusement touchée par sa sollicitude. Elle baissa les yeux sur ses mains terreuses aux ongles sales. Elle refréna l'envie de les cacher derrière son dos. Il prit une inspiration.
« Pourrez-vous dire à Malta que je suis venu, que je m'inquiétais à son sujet ?»«
Oui, quand je la verrai.
Mais il se peut que ce ne soit pas avant longtemps. Maintenant rentrez chez vous. Obéissez à votre père désormais. » Je suis persuadé qu'il a assez de soucis sans que vous preniez davantage de risques. »
À ces mots, il se redressa légèrement. Un sourire effleura ses lèvres.
« Je sais, mais il fallait que je vienne, vous comprenez. Tant que j'aurais ignoré ce qu'elle était devenue, je n'aurais pas été en paix. »
Il marqua une pause.
« Je peux aussi en parler à Dilo ?»
L'ami de Malta était une des pires commères de Terrilville. Ronica conclut que Serwin n'en savait pas suffisamment pour constituer une menace.
« Vous pouvez, mais conjurez-la de garder tout cela pour elle. Demandez-lui de ne pas parler du tout de Malta. C'est le plus grand service qu'elle puisse rendre à son amie. Moins on s'interrogera sur elle, plus elle sera en sécurité. »
Serwin prit une mine sombre et dramatique.
« Bien sûr, je comprends. »
Il hocha la tête.
« Eh bien, adieu, Ronica Vestrit. »«
Adieu, Serwin Trell. » Il y avait seulement un mois, il aurait été impensable qu'il se trouvât dans cette chambre. La guerre civile avait tout bouleversé. Elle le regarda s'en aller, et il lui sembla qu'il emportait avec lui les derniers vestiges de cette vie d'autrefois. Toutes les règles qui avaient régi son existence étaient renversées. Durant un instant, elle se sentit aussi désolée et pillée que la pièce dans laquelle elle se tenait. Puis, une singulière sensation de liberté l'envahit. Qu'avait-elle à perdre? Éphron était mort. Depuis la disparition de son mari, son univers familier s'était écroulé. Maintenant, elle restait seule. Elle pouvait faire son chemin désormais. Sans Éphron, sans les enfants, sa vie passée n'avait plus guère d'importance. Puisque le présent était pénible, autant qu'il soit intéressant. Après que les pas du jeune homme se furent éloignés dans le couloir d'allée, Ronica quitta la chambre de Malta et parcourut lentement la maison. Elle avait évité d'y pénétrer depuis qu'à son retour, elle l'avait découverte dévastée. Maintenant, elle se força à entrer dans toutes les pièces et à regarder les dépouilles de son univers. Les meubles les plus lourds, quelques rideaux et tentures subsistaient. Presque tout ce qui avait une valeur ou utilité quelconque avait été emporté. Avec Rack, elle avait récupéré quelques ustensiles de cuisine et de la literie, mais tous les objets qui agrémentent la vie quotidienne avaient disparu. Les assiettes qu'elle posait sur la table de bois brut étaient désassorties et elle n'avait pas de drap sous ses couvertures de laine grossière. Cependant, la vie continuait. En mettant la main sur le loquet de la porte de la cuisine, elle remarqua par terre dans un coin un pot cacheté à la cire. Elle se baissa pour le ramasser. Il fuyait un peu. Elle lécha son doigt poisseux. Confiture de cerise. Elle sourit tristement, puis le fourra au creux de son bras. Elle emporterait ce dernier relief de douceur.
Dame compagne ?
Cérille leva les yeux de la carte qu'elle étudiait. À la porte du cabinet de travail, le petit serviteur baissait la tête avec déférence.
« Oui ? Il y a une visiteuse ? Je suis occupée. Qu'elle revienne une autre fois. »
Elle se sentit légèrement irritée contre lui. Il aurait dû savoir qu'elle ne voulait plus recevoir personne aujourd'hui. Il était tard, elle avait passé tout l'après-midi dans une pièce étouffante à tâcher de faire entendre raison à une foule de marchands, et ils ergotaient sur les choses les plus évidentes. Quelques-uns persistaient à exiger un vote du conseil avant de reconnaître son autorité. Le marchand Larfa avait suggéré, avec une certaine grossièreté, que Terrilville devait régler ses propres affaires sans recevoir de conseil de Jamelia. C'était exaspérant. Elle leur avait montré la procuration qu'elle avait extorquée au gouverneur. Elle l'avait rédigée elle-même, elle savait le document incontestable. Pourquoi refusait-il d'admettre qu'elle détenait l'autorité du gouverneur et que Terrilville y était sujette? Elle consulta une fois de plus la charte de Terrilville. Jusqu'ici, les marchands avaient été en mesure de garder leurs ports ouverts, mais c'était aux dépens du commerce. La ville ne pourrait se maintenir longtemps dans cette situation. Les Chalcédiens le savaient fort bien. Ils n'avaient pas besoin de se précipiter pour s'emparer sur le champ de Terrilville. Le commerce était la vie de cette ville, et les Chalcédiens l'étranglaient, lentement, mais sûrement. Les marchands entêtés étaient ceux-là même qui refusaient de se rendre à l'évidence. Terrilville était une colonie établie sur une côte hostile, incapable depuis toujours de vivre en autarcie. Comment pouvait-elle résister à l'attaque d'une contrée belliqueuse telle que Chalcède? Cérille avait posé la question au chef du conseil. Et ils avaient répondu qu'ils l'avaient déjà fait et qu'ils le referaient. Mais à l'époque, ils étaient soutenus par la puissance de Jamelia. Et ils n'avaient pas alors affaire aux nouveaux marchands qui auraient pu se réjouir d'une invasion chalcédienne. Ils étaient nombreux à entretenir des liens étroits avec Chalcède, qui constituait le principal marché pour les esclaves qu'ils faisaient transiter par Terrilville. Elle réfléchit à nouveau sur le message apporté par l'oiseau que Rod Cairn avait intercepté et qu'il lui avait transmis. Jamelia promettait d'expédier bientôt une flotte pour venger l'assassinat du gouverneur par les premiers marchands rebelles et corrompus. Cette seule idée glaçait ses rires. Le message était arrivé trop vite. Un oiseau ne pouvait voler aussi rapidement. Cela signifiait, selon elle, que la conspiration s'était étendue jusqu'aux nobles de la ville même de Jamelia. On avait lâché un oiseau vers Jamelia en espérant que le gouverneur serait assassiné et que tout accuserait les premiers marchands. La promptitude de la réponse prouvait qu'on avait attendu le message. Quelle ampleur avait prise la conjuration? C'était là toute la question. En admettant qu'elle puisse remonter à la source, elle ne savait pas si elle était en mesure de la déjouer. Si seulement Rod Cairn et ses hommes ne s'étaient pas tant précipités la nuit de l'enlèvement du gouverneur, si Davad Restart et les Vestrites avaient survécu, on aurait pu leur arracher la vérité. Ils auraient révélé les noms des nobles jaméliens impliqués dans le complot. Mais Restart était mort et les Vestrites avaient disparu. Elle n'avait plus de réponse à attendre de ce côté-là. Elle repoussa la charte qu'elle remplaça par une belle carte de Terrilville. L'ouvrage d'une facture raffinée faisait partie des merveilles qu'elle avait découvertes dans la bibliothèque de Restart. En sus des octrois originaux consentis aux premiers marchands, dont chacun était tracé d'une encre à la couleur de la famille, Davad avait écrit les titres principaux des nouveaux marchands. Elle les examina, supputant que les documents pourraient lui fournir des indices quant à l'identité des alliés de Restart. Elle fronça les sourcils, prit sa plume, la trempa dans l'encre et inscrivit une note. L'emplacement du mont Vinette lui plaisait. Cela ferait un agréable lieu de villégiature l'été, une fois que tous ces conflits seraient réglés. L'endroit avait été la propriété d'un nouveau marchand. Il était probable que les premiers seraient enchantés de la lui céder. Ou bien, en sa qualité de représentante du gouverneur, elle pouvait tout simplement se l'approprier. Elle s'appuya au dossier de l'immense fauteuil et regretta brièvement que Davad Restart ait été de taille si élevée. Rien dans cette pièce n'était à son échelle à elle. Parfois, elle avait l'impression d'être une enfant jouant à la grande personne. Il arrivait aussi qu'elle ait la même impression en société. Sa seule présence ici était une imposture. Son autorité déléguée par le gouverneur était inscrite dans un document qu'elle avait forcé Cosgo à signer quand il était malade. Son pouvoir, ses prétentions à un rôle d'envergure étaient fondées là-dessus. Et la valeur de ce document était à son tour fondée sur la notion que le gouverneur de Jamelia était le souverain légitime de Terrilville. Elle avait été saisie en découvrant qu'il était beaucoup question de la souveraineté de Terrilville parmi les marchands. Ce qui rendait le prétendu statut de Serrille encore plus douteux. Peut-être aurait-elle été plus avisée de se ranger du côté des nouveaux marchands. Mais non, car certains d'entre eux, au moins, comprenait que les nobles jaméliens tentaient de se débarrasser de la domination du gouverneur. Si son pouvoir était contestable dans sa propre capitale, combien fragile était-il dans la plus lointaine province du gouvernorat? Il était trop tard pour reculer. Elle avait fait son choix, endossé son rôle. À présent, il fallait le jouer bien, c'était son dernier espoir. Si elle y réussissait, cette ville serait sa patrie jusqu'à la fin de ses jours. C'était son rêve depuis que, jeune femme, elle avait entendu dire qu'à Terrilville, une femme pouvait prétendre aux mêmes droits qu'un homme. Elle s'adossa un instant au coussin en promenant son regard à travers la pièce. Un grand feu pétillait dans l'âtre du cabinet de travail. Sa lumière conjuguée à celle des multiples bougies réchauffait de reflets le bois ciré du bureau. Elle aimait cette pièce. Oh, certes, les rideaux étaient hideux. Les livres sur les étagères qui tapissaient le mur étaient écornés et mal classés, mais on pouvait y remédier. Le décor rustique l'avait dérangée au début, contrariée même, mais à présent qu'elle était propriétaire de la demeure, elle avait l'impression de faire vraiment partie de Terrilville. La plupart des maisons de marchands qu'elle avait vues ressemblaient à celle-ci. Elle saurait s'adapter. Elle remua les orteils à l'intérieur de ses douillettes pantoufles en laine d'agneau. Elles avaient appartenu à Keki, et elles étaient un peu justes. Elle se demanda machinalement si la compagne avait froid aux pieds à l'heure qu'il était. À n'en pas douter, les marchands du désert des pluies devaient prendre grand soin de leurs augustes otages. Elle ne réprima pas un sourire de satisfaction. Même en portions congrues, la revanche était douce. Le gouverneur n'avait probablement pas encore compris qu'elle avait organisé son enlèvement.
« Dame compagne ?»
C'était encore le petit serviteur.
« J'ai dit que j'étais occupé, »
répéta-t-elle sur un ton menaçant. Les serviteurs de Terrilville n'avaient aucune notion du respect dû au maître. Elle avait étudié cette ville toute sa vie, mais rien dans son histoire officielle ne l'avait préparée à cette réalité égalitaire. Elle serra les dents quand le garçon lui répondit
« Je lui ai dit que vous étiez occupé, »
déclara-t-il avec prudence.
« Mais elle a insisté pour vous voir tout de suite. Elle prétend que vous n'avez aucun droit sur la maison de Davad Restart et qu'elle vous donne une chance de vous expliquer avant de porter plainte devant le Conseil des marchands au nom des héritiers légaux de Davad. »
Seri lança sa plume sur le bureau. Qu'on lui parle sur ce ton, c'était inadmissible et un domestique de surcroît.
Davad Restart était un traître. Ses actes lui ont valu d'être déchu de ses droits à la propriété, ce qui inclut aussi ses héritiers.
Elle se rendit subitement compte qu'elle se justifiait devant un serviteur. Elle s'emporta.
« Dis-lui de s'en aller, je n'ai pas le temps de la voir, ni aujourd'hui, ni les autres jours. »«
Dites-le-moi vous-même, et nous aurons plus de temps pour en discuter. »
Interdite, Seri dévisagea la vieille femme qui s'encadrait sur le seuil. Sa mise était simple, ses vêtements usés mais propres. Elle ne portait pas de bijoux, mais ses cheveux luisants étaient arrangés avec soin. Sa contenance, plus que sa tenue, attestait son statut de marchande. Le visage ne lui était pas inconnu, mais, étant donné les liens de parenté qui unissaient tous les premiers marchands, ce n'était guère surprenant. La moitié d'entre eux étaient cousins au second degré.
Seri lui lança un regard furibond. « Allez-vous-en !»
dit-elle brutalement. Elle reprit sa plume, affectant le calme.
« Non, je ne m'en irai pas tant que je n'aurai pas obtenu satisfaction. »
Une colère froide perçait dans la voix de la marchande.
« Davad Restart n'était pas un traître. En le flétrissant comme tel, vous avez ainsi été en mesure de vous approprier ses biens. Peut-être vous souciez-vous peu de voler un mort qui, au surplus, vous a prodigué son hospitalité. Mais vos accusations mensongères ont causé mon malheur. » La famille Vestrit a été attaquée, a failli se faire assassiner. J'ai été chassé de chez moi, dépouillé de mes biens, et tout cela à cause de vos calomnies. Je ne le souffrirai pas plus longtemps. Si vous me forcez à porter l'affaire devant le conseil, vous découvrirez que le pouvoir et la fortune n'influencent pas la justice ici, au contraire de Jamelia. Les marchands n'étaient guère plus que des mendiants quand ils se sont installés ici. Notre société est fondée sur l'idée qu'un homme est lié par sa parole, sans considération de fortune. Notre survie a dépendu de notre disposition à se fier à la parole d'autrui. Le faux témoignage est un délit plus grave ici que vous ne l'imaginez. »
Ce devait être Ronica Vestrit. Elle ne ressemblait guère à la dame élégante du bal. Elle n'avait conservé que sa dignité. Seri se rappela que c'était elle qui commandait ici. Elle se le répéta jusqu'à ce qu'elle en soit convaincue. Elle ne pouvait risquer de voir quiconque contester sa supériorité. Plus tôt cette vieille femme serait neutralisée, mieux cela vaudrait pour tout le monde. Sa mémoire la ramena brusquement à l'époque de sa vie à la cour du gouverneur. Comment traitait-il ce genre de plainte? Elle déclara, le visage impassible,
« Vous me faites perdre mon temps avec votre litanie de prétendu grief. Vos menaces et vos sous-entendus ne m'impressionnent pas. »
Elle se radossa à son fauteuil, affectant une sereine assurance.
« Ignorez-vous que vous êtes accusé de trahison? Faire irruption ici avec vos récriminations insensées est non seulement téméraire, mais grotesque. Estimez-vous heureuse que je ne vous fasse pas mettre au fer sur le champ ?»
Seri chercha à croiser le regard du petit serviteur. Il aurait dû comprendre à demi-mot et courir chercher de l'aide, mais il observait les deux femmes avec une curiosité avide. Bien loin d'être intimidée, Ronica s'enflamma de colère.
« Il se peut que votre ton soit efficace à Jamelia, où les tyrans sont vénérés. Mais ici, nous sommes à Terrilville. Ici, ma voix est aussi forte que la vôtre, et nous n'enchaînons pas les gens sans leur donner une chance de s'exprimer. » J'exige de m'adresser au conseil des marchands de Terrilville. Je veux laver l'honneur de Davad, ou qu'on me présente les preuves qui le condamnent. J'exige une sépulture décente pour sa dépouille, dans un cas comme dans l'autre. »
La vieille dame s'avança, en serrant ses mains osseuses le long de son corps. Ses yeux erraient dans la pièce, et son indignation croissait à mesure qu'elle y remarquait les signes de la présence de Seri. Ses paroles se firent plus saccadées.
« J'exige que la propriété de Davad soit rendue à ses héritiers. Je veux défendre mon honneur et j'exige des excuses de la part de ceux qui ont mis ma famille en danger. En outre, j'en attends réparation. »
Elle s'approcha encore.
« Si vous me forcez à aller devant le conseil, on m'entendra. Vous n'êtes pas Jamélia, compagne. Les plaintes d'un marchand, même impopulaire, ne sont pas rejetées. »
Le petit écervelé avait filé. Séri mourait d'envie d'aller à la porte et d'appeler à l'aide. Mais elle redoutait même de se lever de crainte de provoquer une attaque. Ses mains la trahissaient déjà et tremblaient. Toute situation de conflit lui faisait perdre son assurance désormais. Depuis... Non, elle n'allait pas penser à cela maintenant. Elle ne se laisserait pas affaiblir. Y penser sans cesse, c'était reconnaître qu'elle en avait été changée irrémédiablement. Personne n'avait ce pouvoir-là sur elle, personne. Elle serait forte.
« Répondez !»
ordonna brusquement la femme. Séri sursauta violemment, et de ses mains agitées, elle dispersa les papiers sur le bureau. La vieille dame se pencha sur la table, les yeux flamboyants de colère.
« Comment osez-vous rester assise là et affecter de ne pas m'entendre ? Je suis Ronica Vestrit, des marchands de Terrilleville. Pour qui vous prenez-vous à vous taire et à me dévisager de la sorte ?»
Par un ironique retour des choses, c'était la seule question susceptible de délivrer Séri de la panique qui la paralysait. Cette question, elle se la posait souvent ces derniers temps. Elle répétait la réponse devant son miroir, éprouvant le besoin incessant de se justifier à ses propres yeux. Elle se leva. Sa voix chevrotait légèrement.
« Je suis Séri, la compagne consacrée du gouverneur Kosgo. En outre, je suis sa représentante ici, à Terrilleville. » J'ai les documents qui l'attestent, documents que le gouverneur a élaborés précisément pour traiter cette situation. Tant qu'il se tient caché pour sa propre sécurité, ma parole a force de loi comme la sienne. Mes dispositions et décisions sont aussi impératives. J'ai moi-même enquêté sur l'affaire de la trahison de Davad Restart et j'ai conclu à sa culpabilité. Selon le droit jamélien, tous ses biens sont confisqués par le trône. En qualité de représentante du trône, j'ai décidé de m'en réserver l'usage.
La vieille dame parut momentanément démontée. Séri reprit du poil de la bête devant ce signe de faiblesse. Elle saisit sa plume. Penchée sur le bureau, elle feignit de parcourir ses notes puis leva les yeux sur sa visiteuse.
« Attendu que jusqu'ici je n'ai pas trouvé la preuve absolue de votre trahison, je n'ai pas fait de déclaration officielle vous concernant. Je vous suggère de ne pas me pousser à approfondir votre implication dans cette affaire. » « Votre sollicitude à l'endroit d'un traître mort ne plaide guère en votre faveur. Vous seriez bien avisé de disposer à présent ?»
Séri la congédia en s'absorbant à nouveau dans ses papiers. Elle espérait que cette femme se contenterait de s'en aller. Alors, elle pourrait requérir des hommes armés et les lancer à sa poursuite. Elle appuya ses orteils sur le sol pour empêcher ses genoux de trembler. Le silence se prolongea. Séri s'interdit de lever la tête. Elle attendait que cette Ronica Vestrit sorte en traînant les pieds, vaincue. Mais tout à coup, le poing de la marchande s'abattit sur le bureau, faisant jaillir l'encre de l'encrier.
« Vous n'êtes pas à Jamélia !»
déclara Ronica brutalement.
« Vous êtes à Terrilleville, et ici la vérité est attestée par les faits et non par vos décrets. »
Les traits crispés par la fureur et la détermination, la marchande se pencha sur le bureau et approcha son visage de celui de Séri.
Si Davad Restart avait été un traître, il y en aurait une preuve là dans ses registres. Aussi inconséquent qu'il ait pu être, il tenait toujours soigneusement ses comptes.
Séri se cala sur le dossier de son fauteuil. Son cœur cognait et ses oreilles bourdonnaient. Cette femme avait l'esprit complètement dérangé. Elle chercha en elle la force de bondir sur ses pieds et de fuir, mais elle était paralysée. Elle aperçut le gamin derrière Ronica, puis, avec un intense soulagement, plusieurs marchands à sa suite. Tout à l'heure, Elle aurait été furieuse qu'il ne les eût pas annoncés, mais maintenant elle lui en était si piteusement reconnaissante que des larmes lui brûlèrent les yeux.
« Maîtrisez-la !»
implora-t-elle.
« Elle me menace !»
Ronica tourna vivement la tête vers les hommes. Quant à ceux-ci, ils semblaient pétrifiés. Elle se redressa lentement en tournant le dos à ses rilles. Sur un ton de courtoisie glaciale, elle les salua par leur nom.
« Marchand de rure, marchand country, marchand de voucher, je suis ravi de vous voir ici. Peut-être maintenant obtiendrai-je des réponses à mes questions. »
Les expressions qui passèrent sur les figures des marchands apprirent à Seri que sa position ne s'était pas affermie. Leurs mines saisies et contrites se voilèrent rapidement d'une sollicitude polie. Seul le marchand de voucher la regardait dans les yeux.
« Ronica Vestrit ?»
fit-il incrédule.
« Mais je croyais... »
Il se tourna vers ses compagnons qui avaient été plus promptes à se ressaisir.
« Que se passe-t-il ici ?»
commença le marchand de rure, mais Country le devança.
« Je crains que nous ayons interrompu une conversation privée. Nous pouvons revenir plus tard. »«
Point du tout !»
répondit Ronica avec gravité, comme s'il s'était adressé à elle.
« À moins que vous ne jugiez que ma vie est du seul ressort de la compagne. La question débattue ici est plus à même d'être résolue par le conseil que par une compagne du gouverneur. Messieurs, comme vous le savez certainement, mes enfants et moi-même avons été victimes d'une agression sauvage et diffamés au point que nos vies sont menacées. Le marchand Restart a été traîtreusement assassiné et calomnié après coup, en sorte que ces meurtriers se targuent d'avoir eu raison. Je suis venu ici pour exiger que le conseil enquête sur cette affaire et rende justice. »
Le regard de Devoucher se durcit.
« Justice a été faite. Restart était un traître, c'est notoire. »
Ronica Vestrit garda un visage impassible.
« C'est ce que je ne cesse d'entendre, en effet. Mais personne ne m'a fourni l'ombre d'une preuve. »
« Ronica, soyez raisonnable !»
intervint le marchand de rure sur un ton de reproche.
« Terrilleville est sans dessus-dessous. Nous sommes en pleine guerre civile. Le conseil n'a pas le temps de se réunir pour débattre d'affaires privées. Il doit... »«
Le meurtre n'est pas une affaire privée. Le conseil se doit de répondre aux plaintes de tous les marchands. C'est dans ce but qu'il a été créé, pour veiller à ce que, sans considération de fortune, la justice soit accessible à tous. C'est ce que j'exige. Je crois, moi, que Davad a été tué et ma famille attaquée sur de simples rumeurs. Ce n'est pas justice, c'est meurtre et voie de fait. En outre, alors que vous êtes persuadé que le coupable a été puni, je suis persuadé, moi, que les véritables traîtres courent toujours. J'ignore ce qu'il est advenu du gouverneur. Cependant, cette femme a l'air d'être au courant de son propre aveu. Je sais qu'il a été emmené de force cette nuit-là. Il me paraît peu vraisemblable qu'il soit allé se cacher en lui déléguant son pouvoir. Il me semble plus probable que nous avons été mêlés à un complot jamais lien visant à renverser le gouverneur, puis à nous en faire endosser la responsabilité. J'ai même entendu dire qu'elle désirait traiter avec les Chalcédiens. Que leur donnera-t-elle, messieurs, pour les apaiser? Qu'a-t-elle à leur offrir, hormis ce qui appartient à Terrilleville? En l'absence du gouverneur, elle profite du pouvoir et de l'opulence. Certains marchands n'auraient-ils pas été manipulés pour l'enlever, afin de servir les propres intérêts de cette femme? Si c'est le cas, elle les a conduits à la trahison. N'est-ce donc point là une affaire dont le conseil doit se saisir s'il refuse d'examiner le meurtre de Davad Restart? Ou s'agirait-il, là encore, d'affaires privées?
Seri avait la bouche sèche. Les trois hommes échangeaient des regards hésitants. Ils étaient influencés par le discours de cette folle. Ils allaient se retourner contre elle. Derrière eux, le petit serviteur s'attardait près de la porte, écoutant de toutes ses oreilles. Il y eut du bruit dans le couloir, et Rod Cairn et Crion Trentor pénétrèrent dans la pièce. Grand et mince, Rod dominait son compagnon moins vigoureux. Il avait noué ses longs cheveux noirs en queue de cheval à la manière d'un guerrier barbare. Ses yeux sombres, qui d'ordinaire luisaient d'un éclat sauvage, étincelaient maintenant de la convoitise du prédateur. Et il dévisagea Ronica. En dépit du malaise que le jeune marchand suscitait toujours en elle, Ceri éprouva un brusque soulagement à sa vue. Lui, au moins, se rangerait de son côté.
« J'ai entendu le nom de Davad Restart, »
fit remarquer Rhode avec rudesse.
« Si quelqu'un conteste la manière dont il a fini, c'est à moi qu'il faut s'adresser. »
Il défia Ronica du regard. Elle se redressa et s'avança vers lui avec intrépidité. Elle lui arrivait à peine à l'épaule. Elle leva les yeux en demandant
« Fils de marchand, vous avouez que vous avez du sang de marchand sur les mains ?»
L'un des visiteurs eut un hoquet de surprise et Rhode parut un instant saisi. Crayon se lécha les lèvres nerveusement.
« Restart était un traître !»
déclara Rhode.
« Prouvez-le-moi »
éclata Ronica.
« Prouvez-le-moi, et je me tairai, malgré que j'en ai. Traître ou non, Davad n'a pas été puni par la justice, il a été victime d'un meurtre. Mais plus important, messieurs, je propose que vous vous le prouviez à vous-même. Davad n'est pas le traître qui a tramé le rapt d'un gouverneur. Il n'avait nul besoin d'enlever un homme qui logeait chez lui. En croyant à la trahison de Davad, en croyant que vous avez déjoué un complot d'assassinat, vous vous condamnez vous-même à la paralysie. Ceux qui sont derrière votre conspiration, si jamais il y eut conspiration, sont encore en vie et libres de perpétrer leur forfait. Peut-être avez-vous été manipulé en faisant exactement ce que vous affirmiez redouter, enlever le gouverneur, attirer le courroux de Jamélia sur Terrilleville.
Elle se força à grand-peine à adopter un ton calme.
Je sais que Davad n'était pas un traître, mais il se peut qu'il ait été une dupe. Un madré comme lui pouvait être victime d'un plus madré encore. Je propose que vous examiniez avec soin les papiers de Davad et que vous vous demandiez qui l'utilisait. Posez-vous la question qui sous-tend tous les actes d'un marchand. À qui cela profitait-il?
Elle les regarda l'un après l'autre.
Rappelez-vous ce que vous saviez de Davad. A-t-il jamais passé un marché quand il n'était pas certain d'en tirer avantage? S'est-il jamais mis dans une situation physiquement périlleuse? C'était un gaffeur en société. Les premiers et les nouveaux marchands n'étaient pas loin de le traiter en paria. Est-ce là l'homme au charisme et à l'habileté nécessaires pour tramer un complot contre le personnage le plus puissant du monde?
Elle indiqua Ceri d'un mouvement de tête dédaigneux.
Demandez donc à la compagne qui lui a fourni les informations qui l'ont conduite à ces suppositions. Comparez ces noms aux noms de ceux qui utilisaient Davad comme intermédiaire dans leurs affaires, et il se peut alors que vos soupçons se concrétisent. Quand vous aurez les réponses, vous me trouverez chez moi. À moins, bien sûr, que le fils du marchand Cairn juge que mon assassinat serait le moyen le plus expédient de régler l'affaire.
Elle se tourna brusquement. Droite comme une lame, sérieuse, elle fit face à Rhode. Le beau visage basané de Rhode Cairn était devenu pâle et défait.
Davad Restart a été éjecté de la voiture. On ne voulait pas qu'il meure là-bas.
Ronica le fixa de son regard glacial.
Que vous l'ayez voulu ou non, cela ne fait pas grande différence. Dans les deux cas, vous ne vous êtes soucié d'aucun de nous. Malta a écouté ce que vous avez dit, la nuit où vous l'avez laissée pour morte. Elle vous a vu, elle vous a entendu, et elle en a réchappé. Certainement pas grâce à vous. Marchand, fils de marchand, je crois que vous avez de quoi réfléchir ce soir. Bonne nuit.
Cette femme, malgré son âge et ses vêtements usés, réussit à quitter la pièce avec la majesté d'une reine. Le soulagement que Ceri ressentit à son départ fut de courte durée. Elle se rassit dans son fauteuil et se sentit troublée par tous ces visages qui l'entouraient. En se rappelant ses premiers mots quand les marchands étaient entrés, elle eut envie de rentrer sous terre. Alors, elle décida de se justifier. « Cette femme a perdu la raison, » déclara-t-elle à un ton plus bas. « Je crois vraiment qu'elle m'aurait fait du mal si vous n'étiez pas arrivé. » Puis elle ajouta à mi-voix, « Il vaudrait peut-être mieux qu'elle soit détenue d'une façon ou d'une autre, pour sa propre sécurité. »
« Je ne peux pas croire que le reste de sa famille en ait réchappé, »
commença Crionne d'une voix émue.
« La ferme !»
lui ordonna Rodkern. Et il parcourut la pièce d'un regard hargneux.
« Je suis d'accord avec la compagne. Ronica Vestrit est folle. Elle parle d'en appeler au conseil, elle réclame des procès criminels, des jugements. Comment peut-elle croire que ces règles s'appliquent en temps de guerre? Aujourd'hui, c'est aux hommes forts d'agir. » Si nous avions attendu que le conseil se réunisse la nuit de l'incendie, Terrilville serait à l'heure qu'il est aux mains des Chalcédiens. Le gouverneur serait mort et on aurait fait retomber la faute sur nous. Les marchands ont été obligés d'agir individuellement et ils l'ont fait. Nous avons sauvé Terrilville. Je regrette que Restart et les Vestrit se soient retrouvés mêlés à la capture du gouverneur, mais c'est eux qui ont décidé de monter avec lui en voiture. En se choisissant un tel compagnon, ils ont choisi leur sort.
« Capture ?»
fit le marchand de rure en haussant le sourcil.
« On m'avait dit que nous étions intervenus pour empêcher les nouveaux marchands de l'enlever. »
Rodkern ne blêmit pas.
« Vous savez bien ce que je veux dire. »
gronda-t-il, et il se détourna. Il se dirigea vers une fenêtre et scruta au dehors la nuit qui tombait, comme pour essayer d'apercevoir la silhouette de Ronica qui s'éloignait. Drure secoua la tête. Le marchand grisonnant paraissait plus vieux que son âge.
« Je sais quelles étaient nos intentions, mais d'une certaine façon... »
Il laissa ses paroles en suspens, puis il leva les yeux et regarda lentement tous les gens présents dans la pièce.
« C'est pour cela que nous sommes venus ici ce soir, compagne Série. Mes amis et moi-même craignons qu'en tentant de sauver Terrilville, nous ne l'ayons mené à sa perte. »
La figure de Rhodes s'assombrit de colère.
Et moi, je suis venu pour dire que nous, les jeunes, qui sommes ces forces vives, nous savons que nous ne sommes pas allés assez loin. Vous êtes impatient de traiter avec les nouveaux marchands, n'est-ce pas, Drure? Alors même qu'ils ont déjà craché sur une proposition de trêve. Vous braderiez mes droits pour vous assurer une petite vieillesse bien tranquille. Eh bien, votre fille peut rester à la maison à faire de la dentelle pendant que des hommes meurent dans les rues. Elle peut vous laisser ramper lâchement devant les parvenus et marchander nos droits pour avoir la paix, mais pas nous. Qu'est-ce que ce sera ensuite? Vous la donnerez aux Chalcédiens pour acheter la paix?
Drure était devenu rouge comme un coq. Il serra les poings le long du corps.
« Messieurs, je vous en prie, »
dit Séré d'une voix douce. La tension vibrait dans l'air. Elle se tenait au centre, comme une araignée dans sa toile. Les marchands se tournèrent vers elle, suspendus à ce qu'elle allait dire. Sa peur, son angoisse de tout à l'heure, était réduite en cendres par le sentiment de triomphe qui brûlait secrètement en elle. Le marchand s'opposait au marchand, et ils étaient venus lui demander conseil. Ils avaient donc une haute opinion d'elle. Si elle pouvait conserver cette emprise sur eux, elle serait en sûreté pour toute sa vie. Alors, prudence maintenant. « Allons-y doucement. »«
Je savais que ce moment viendrait, » dit-elle en mentant avec grâce. « C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pressé le gouverneur de venir, afin qu'il serve de médiateur dans ce conflit. Vous vous considérez vous-même désunis en factions séparées, alors que le monde, lui, vous considère comme un tout. Marchand, vous devez vous voir avec les yeux du monde. Je ne veux pas dire... »
Ici, elle haussa le ton et leva la main alors que Rodkern, furieux, prenait sa respiration pour l'interrompre. « Que vous devez céder ce qui vous appartient de droit.
Les marchands et leurs fils peuvent être assurés que le gouverneur Kosgo ne leur retirera pas ce que le gouverneur Esclépius leur a octroyé. Cependant, si vous n'y prenez garde, vous pouvez encore le perdre en refusant de comprendre que les temps ont changé. Terrilville n'est plus un petit coin tranquille. » Elle est en mesure de se transformer en un important port de commerce pour le monde. Pour ce faire, Cette ville doit devenir plus diversifiée, plus tolérante que par le passé, sans toutefois perdre les qualités qui la rendent unique sur la couronne du gouverneur. » Les mots lui venaient, sortaient de sa bouche en formules cadencées, rationnelles. Les marchands paraissaient fascinés. Elle savait à peine ce qu'elle disait, peu importait. Ces hommes désiraient si désespérément trouver une solution qu'ils étaient prêts à écouter quiconque prétendrait en détenir une. Elle s'adossa à son fauteuil, tous les regards fixés sur elle. Drure fut le premier à prendre la parole.
« Vous allez traiter avec les nouveaux marchands en notre nom ?»«
Vous allez réaffirmer les clauses de notre charte originelle ?» demanda Roodkern.
« En effet, en qualité de tiers et de représentante du gouverneur, je suis seule qualifiée pour amener la paix à Terrilville, une paix durable dont les termes seront acceptables par tous. » Avec un éclair dans les yeux, elle ajouta « Et en ma qualité de représentante, je rappellerai aux Chalcédiens qu'en attaquant une possession de Jamelia, ils attaquent Jamelia elle-même. Le trône de Perle ne tolérera pas pareil affront. » Comme si ces paroles avaient déjà accompli la chose, il y eut un soudain relâchement de la tension. Les épaules se décrispèrent, les poings et les coups se détendirent.
Vous ne devez pas vous considérer comme des adversaires. Vous apportez chacun vos propres forces à la table des négociations.
D'un geste, elle désigna les deux groupes tour à tour.
Vos aînés connaissent l'histoire de Terrilville et expriment des années d'expérience dans les négociations. Ils savent qu'on ne peut rien obtenir sans que les parties en présence soient disposées à céder sur des points mineurs. Alors que, vos fils, comprennent que leur avenir est subordonné à la reconnaissance par tous de la charte. Ils dispensent la force de leurs convictions et la ténacité de la jeunesse. Vous devez rester unis en ces temps troublés afin de faire honneur au passé et de préparer l'avenir.
Les deux groupes se regardaient ouvertement à présent. L'hostilité s'émoussait à la perspective de tenter une alliance. Ceri sentit son cœur bondir. Voilà pourquoi elle était faite. Terrilville était son destin. Elle l'unifierait, la sauverait et la ferait sienne.
« Il est tard, » dit-elle doucement. « Je crois que nous avons besoin de repos et de réflexion. Je vous attendrai tous demain à midi pour déjeuner. » D'ici là, j'aurai mis de l'ordre dans mes idées et propositions. Si nous sommes unanimes à décider de traiter avec les nouveaux marchands, je vous soumettrai une liste de ceux qui seraient prêts à négocier et qui ont suffisamment d'influence pour s'exprimer au nom de leurs congénères. »
En voyant que Roodkern se rembrunissait et que Crillon lui-même faisait la grimace, elle ajouta avec un léger sourire « Mais bien sûr, vous n'êtes pas encore d'accord pour adopter cette position. » Et rien ne sera fait tant que nous ne serons pas parvenus à un consensus. Je vous en donne l'assurance. Je serai disposé à examiner toutes les suggestions. » Elle les congédia avec un sourire et un « Bonne nuit, marchand !» L'un après l'autre, ils vinrent s'incliner sur sa main et la remercier de ses conseils. Quand ce fut au tour de Roodkern, elle lui retint les doigts un instant. Devant son regard surpris, elle remua les lèvres et articula en silence
« Revenez plus tard. »
Rhodes écarquilla ses yeux sombres, mais ne dit mot. Après que le petit serviteur les eut raccompagnés à la porte, elle lâcha un soupir de soulagement et de satisfaction.
Elle survivrait ici. Terrilville serait à elle, quoi qu'il advienne du gouverneur.
Elle pinça les lèvres en songeant à Roodkern. Puis, elle se leva vivement et se dirigea vers la sonnette de service. Avec l'aide de sa servante, elle allait s'habiller de façon plus cérémonieuse. Il lui faisait peur. Il était capable de tout. Elle ne voulait surtout pas qu'il interprète sa requête comme un rendez-vous amoureux. Elle se montrerait froide et solennelle quand elle le lancerait aux trousses de Ronica Vestrit et de sa famille.